Charles-Ferdinand Ramu, Nouvelle, Le retour du mort. Ils mettent souvent longtemps à nous revenir, ils ont leurs caprices. Un homme dans un bateau fait signe de loin à Zumlaouf, qui est dans son bateau à lui, en avant de l'établissement de bain. Et il semble que Zumlaouf ait compris tout de suite ce qu'on lui voulait, ayant regardé cet autre, il levait le bras à son intention. Et puis, avec la main, lui disait de venir sans rien dire, rapprochant sa main plusieurs fois de suite de sa figure. Zumlaouf n'a rien demandé. Ils ne sont jamais pressés. L'eau les porte et les déporte. Ils se laissent faire par elle, qui obéit elle-même au vent et il souffle tantôt du nord, tantôt du sud, avec plus ou moins de persistance et de violence. C'est la bise, c'est le joran, c'est toute espèce encore d'autres vents locaux qui ont chacun son nom et qui se succèdent sans ordre. Alors ces pauvres sont amenés du côté de la Savoie jusque dans le milieu du lac, font demi-tour, sont ramenés vers nous et de nouveau poussés latéralement à la rive, longtemps, dans un rêve qu'ils font. Ils descendent, ils remontent, ils sont bu par la profondeur et avalés. Ils sont tirés vers en bas, longuement, à travers l'épaisseur de l'eau et sa limpidité interminable. Et il fait doucement bleu, puis verdâtre. Et peu à peu, on entre dans la nuit avec un reste de lumière très loin au-dessus de soi, qui elle-même s'éteint, comme au bout d'un long corridor dont on fermerait la porte. Eux, ils continuent à descendre, les bras en l'air, les cheveux en l'air, cherchant ce fond qu'ils n'atteignent pas. Leurs habits qui leur collent au corps, pris dans les algues, observés par les poissons qui s'approchent d'eux avec curiosité, les abordent de côté à cause de leur tête plate pour les voir de plus près. Puis s'éloignent d'un coup de queue. Ils descendent. Ils continuent à s'enfoncer, gagnant des régions où il n'y a plus d'algues, où les poissons eux-mêmes n'atteignent plus. Les régions du complet silence. Les régions où la lumière ne s'imagine même pas. Et là, basculent sur eux-mêmes, les pieds en l'air, les bras qui pendent vers en bas. Zumlaouf s'était mis aux rames de son bateau aussi large que long, pareil à une moitié de courge peint en vert. Zumlaouf ramait à grands coups dans la direction de l'autre navigateur qui l'attendait, penché par-dessus le bordage et qui maintenait avec une rame quelque chose de noir contre son embarcation. C'est qu'ils finissent par revenir au jour. Ils retrouvent le soleil qui passe une main tiède sur leur visage extasié. Ils subissent sans étonnement ni fatigue son éclat de leurs yeux grands ouverts. Ils affrontent l'étincellement de ses rayons, semblables à la cime des vagues, à des copeaux enflammés. Ils tiennent tête à l'astre. Ils ne se détournent pas de lui, flottant à la surface de l'eau et recommencent avec indifférence leur voyage en tous sens, tantôt couchés sur le dos, tantôt couchés sur le ventre, le jour, la nuit, par le beau temps et par l'orage, montant et descendant au rythme de la vague, et vont docilement où que ce soit qu'il faut qu'ils aillent, puis enfin nous reviennent. Et c'est pourquoi Zumlaouf a demandé « Qui c'est ?» C'est pas, dit l'autre, un citoyen. Cet autre était un nommé Rocha, horloger de son métier, mais qui pêchait à l'occasion, n'ayant pas beaucoup d'ouvrage. Zumlaouf lui a dit « Tiens-le bien ». Puis il a empoigné sa gaffe. Elle s'est engagée dans quelque chose de désagrégé, de visqueux. Des lambeaux de vêtements sont venus à la surface. Mais Umlauf lance sa gaffe encore une fois, et cette fois elle a mordu. La faible épaisseur d'eau qu'il y avait entre le mort et nous a été comme une vitre qu'on casse. Le mort est venu montrer sa figure à l'air. Il n'avait plus de figure. Il n'avait plus qu'une moitié de figure, l'autre étant toute rongée et dévorée, le crâne pelé, l'orbite vide, sans plus de moustache ni de barbe d'un côté. Pendant que Zumlauf, ayant fixé son croc à l'arrière du bateau, ramait péniblement derrière Rocha vers la rive. Le mort, dans le mouvement, se montrait presque tout entier, avec des pantalons qui étaient plats autour des jambes comme absentes. Sous le beau soleil du soir, parmi les rires et les cris qui venaient de l'établissement de bain. C'est qu'un bateau à vapeur arrivait, et les bateaux à vapeur, à ce point de leur parcours, passent tout près de la rive, tellement près qu'ils paraissent immenses, avec leurs deux ou trois étages, vous fonçant dessus. Et le pilote est sur sa passerelle, où il fait tourner une roue, et les aubes font un bruit de cascade, tandis que la cheminée dévide une énorme fumée noire, pareille à une tresse de crin qu'on détore. Zumlauf avait tiré le canot sur le plan incliné. Le mort est venu à sa suite. On n'osait pas le toucher, car à présent, étant dans l'air et à mesure que l'eau se retirait de lui, il semblait se dissoudre tout en s'aplatissant, devenu une masse sans relief et gélatineuse. Il a été couché sur le plan incliné, le visage tourné vers en haut, avec une demi-barbe et une demi-moustache, une seule longue pointe de moustache grise que l'eau tenait collée sur le côté de sa bouche entrouverte, méconnaissable. Et pourtant déjà reconnu. Zumlauf est là. Zumlauf fait signe à Rocha de dessous sa casquette. Zumlauf cligne de l'œil. Zumlauf ôte sa belle casquette de navigateur à visière de cuir verni et, se penchant vers le mort, l'a abaissée, cachant ainsi la partie du visage qui était en mauvais état. Le mort, alors, est apparu avec son visage de vivant. « Tu devines ?» dit Zumlaos. « Bien sûr, » a dit Rocha. « Tu devines qui c'est ?» Le père l'embellait. Ça n'allait plus avec ses enfants. Un agent de police s'est alors montré sur la rive. Zumlauf l'a appelé. On n'aura plus qu'un petit moment pour considérer celui qui est là, couché sur le dos, la tête plus haut que les pieds. Et il s'était retiré chez ses enfants, ne pouvant plus travailler. Et voilà qu'il ne s'était pas entendu avec ses enfants. En costume de travail, parce qu'on distinguait à présent au reste de son pantalon, qu'il avait été un pantalon de futaine brune, on distinguait que la chemise avait été une chemise bleue à rayures, et que par-dessus, il avait passé un gilet à manches de coutil, dont il ne restait qu'une. Ensuite, on n'a plus rien vu. L'agent de police avait recouvert le cadavre d'une bâche. C'est à peine si le corps faisait bosse sous la bâche, d'où l'eau continuait à découler, formant deux petits ruisseaux parmi la mousse courte et jaune qui avait poussé sur les dalles. C'est un lit. C'est un dernier lit. Et même un lit pourvu d'un drap. Mais celui qui dort dessous doit terriblement bien dormir, pendant qu'un grand bruit de voix et de rires continue à se faire entendre à votre gauche, et que Zumlauf, maintenant, regagne à grands coups de rame l'établissement de bain. On était en train de fermer. Larpin allait d'un bout à l'autre des cabines. Larpin criait « On ferme !» Les baigneurs s'en allaient, quelques-uns avec un coup de soleil sur les jambes ou sur la nuque, des enfants avec des caleçons qu'ils avaient roulés en boule et faisait tourner à tour de bras en les tenant par la ficelle. Une grande fille, à la nuque noire, les jambes et les bras nus dans une courte mince robe d'été. Et Larpin fermait la porte de l'établissement pendant que Zumlaouf abordait. Pendant ce temps, Madame Larpin cassait des macaronis dans une marmite posée sur un réchaud à gaz dans une petite pièce qui se trouvait à côté de la caisse. Pendant ce temps aussi, Larpin et Zumlaouf s'installaient dans la galerie face au lac à une petite table de sapin où Madame Larpin venait d'apporter du vin blanc dans un litre scellé. Larpin en a versé par politesse quelques gouttes dans son verre, puis remplit le verre de Zumlaouf qui lève le sien pour trinquer. Et ils disent « Santé, santé ». Ils sont assis en face l'un de l'autre. Ils se regardent. Ils prennent ainsi chaque jour le repas du soir ensemble, les deux et Madame Larpin. Ils fument chacun une pipe. Ils se regardent. On est bien. La chaleur n'est plus que dans le sable de la plage où les traces de pieds font beaucoup de trous ronds et se montrent au-dessus dans une espèce de tremblotement à travers lequel on dirait que les choses s'évadent sans cesse de leur propre masse. Et la ligne qui les limite à leur partie supérieure se brise en petits morceaux que l'œil a peine à rassembler. Les deux hommes se tiennent dans un courant d'air qui fait bouger les cheveux sur le crâne de Larpin qui était tenu. Zumlaouf a toujours sa casquette. Et c'est de dessous sa casquette qu'il a dit soudain « Encore un ». Larpin hausse les épaules. « Ça en fait combien pour la saison ?» demande Zumlaouf. 4. L'Allemand, 1. Une sommelière de Lausanne, 2. Le chômeur de l'autre jour, 3. Et puis aujourd'hui, Lambelet. Larpin a dit « Pauvre Lambelet ». « Pourquoi pauvre ?» a dit Zumlaouf. Il regarde Larpin à travers la fumée de sa pipe. On voit Larpin qui est maigre, osseux, desséché, avec un maillot à rayures bleues et blanches horizontales. Des bras cuits de soleil où les veines noires s'entrecroisent comme du lierre autour d'une branche. Un petit œil vif à moitié fermé. Et si on jetait un regard par-dessous la table, on verrait sa ceinture rouge, ses pieds nus avec des ongles comme des têtes de clous mal enfoncées. Une grosse chaîne de montre en nickel avec des médailles qui court sur son ventre et va s'enfoncer dans sa poche. Il ne s'entendait plus avec sa fille. C'est ce que dit de nouveau Larpin. Mais Zumlaouf, il est maintenant tranquille. Oui, dit Larpin, mais tout ça. Et levant à demi le bras, il montre en rond tout ça autour de lui. Et c'est le soir qui vient sur le lac parfaitement lisse, où il y a des nuages roses. Il y a aussi des nuages roses dans le ciel. Et il y a deux fois les peupliers, ceux qui sont dans l'air, ceux qui sont dans l'eau. De toutes petites vagues viennent aborder à la rive, allongeant dans le sable leurs griffes, qui s'écartent, comme celles des chats. Elles deviennent blanches en s'ouvrant. Tout ça, dit Larpin, et tout ça est aussi qu'on est bien devant un litre de vin blanc frais, avec sa pipe, c'est encore le plaisir de n'avoir rien à faire une fois qu'on a fait. Il s'en fout bien à présent, dit Zumlaouf. Moi, dit-il en parlant du lac, je suis d'avis qu'on est aussi bien dedans que devant. Madame Larpin apporte un plat de macaroni au fromage avec un reste de jambon. Elle sert les deux hommes. Larpin dit... Il avait pourtant assez travaillé toute sa vie et il n'a rien pu mettre de côté. Larpin dit à sa femme, « C'est de Lambelet qu'on parle. On vient de le repêcher. Mon Dieu, dit Madame Larpin. Où ça? Là, tout près, dit Larpin. C'est Zumlaoff qui s'est chargé de la corvée. On a fait semblant de rien à cause du monde. L'ambulance va venir le chercher. Mon Dieu, dit Madame Larpin, quelle histoire! C'est que ça n'allait plus avec sa fille qu'il avait recueillie. Tu sais bien, elle a épousé un employé des chemins de fer. Ils habitent sous l'église. Zumlaoff écoute sans rien dire. Il sait que Larpin est mieux renseigné que lui. Zumlaoff ne connaît que le lac et il est célibataire. Larpin, lui, continue à parler, coupant des tranches dans le jambon, soulevant avec sa fourchette une bouchée de macaroni qu'il avale par le bout et qui lui fait comme une barbe qu'il ramène peu à peu à lui, buvant de temps en temps un coup de vin, la bouche pleine. Oh, il y a déjà longtemps qu'on s'en entretenait. C'est des gens regardants. On ne donnait rien aux vieux que des restes de soupe. Ils couchaient dans un débarras. Alors il n'y a plus tenu. Combien de temps cela va-t-il faire depuis qu'il a disparu? Ma foi, dit Zumlaoff, nous sommes à fin août. Juin, juillet, août, ça va faire dans les 3 mois. Il a mis du temps pour revenir. Ils reviennent, ils ne reviennent pas, dit Zumlaoff. Ils mettent tout le temps qu'ils veulent. Il y en a qui mettent des années, d'autres qui mettent si longtemps qu'ils ne reviennent plus jamais. Il aura été se promener du côté de Genève, l'Anglais. Il y a le courant du milieu du lac qui les porte. D'autres fois, ils sont jetés par les vagues contre les jetées. Ils deviennent mous comme une chique. Ils n'ont plus un os entier dans le corps. Il n'était pas trop abîmé, l'Anglais, pas trop déshabillé non plus. Il y en a qui vous reviennent tellement nus que ça fait honte. Lui, il avait encore une moitié de pantalon, une des manches de son gilet et sa chemise. Ça ne fait rien, dit Madame Larpin. C'est une vilaine histoire. Est-ce que la justice n'aurait pas son mot à dire? Que veux-tu qu'elle fasse? Lui répond son mari. L'Ambelais s'est jeté à l'eau volontairement. Personne n'en est responsable. « Que si, dit Madame Larpin, ceux qui, par leur mauvais traitement, l'ont obligé à se faire mourir. Il faudrait d'abord qu'on puisse prouver qu'il a été maltraité. Ce n'est pas facile. Il aurait été plus facile de l'empêcher de se noyer, parce qu'on l'a vu. Tu connais Monsieur Perret. Il est commis de banque à Lausanne. Il l'a vu. Il m'a dit, j'ai cru qu'il allait prendre un bain. J'ai été un peu étonnée, un vieux. » Et puis l'eau était encore froide, mais je n'ai pas pensé plus loin. Il venait de se déshabiller, il avait gardé son pantalon et sa chemise. Il avait des chaussettes roses. Je me suis dit, drôle de costume. Mais ça ne me regardait pas. Je n'ai pu m'empêcher pourtant de me retourner quand je l'ai vu dépasser la jetée. Alors je le vois qui s'avance sur l'enrochement, plié en deux. Et il s'appuyait de la main sur l'écartier de roc, parce que ça glisse. Allongeant la jambe. Ensuite, je n'ai plus rien vu. Il était descendu dans l'eau sur le côté opposé de la jetée qui le masquait. On a entendu le bruit qu'il faisait en s'avançant dans l'eau. Il devait glisser. Il se retenait. Il faisait un bruit comme quand un cygne bat des ailes. Puis on a entendu un bruit de gargouillement et puis un cri. Alors je suis revenu en arrière. On a encore vu sa tête qui dépassait pendant qu'il battait l'eau de ses bras, comme pour s'y accrocher. Mais elle a cédé, elle s'est refermée. Qu'est-ce que vous voulez? Il était en eau profonde. C'est l'une de ces places où le mont commence tout près de la rive. On va pendant 15 ou 20 mètres avec de l'eau jusqu'à la ceinture, et puis on n'a plus rien qu'un infini d'abîmes sous le pied. J'ai été chercher du secours, mais il s'est passé du temps avant qu'il pût arriver. Il n'y avait déjà plus trace de lui nulle part. À combien s'enfonce-t-il tout de suite le mont ?»«
On ne sait pas, » dit l'arpin, « 100, 200 mètres.
Et une fois qu'ils sont partis, il n'y a plus qu'à les laisser aller. Ils commencent le grand voyage. Ils sont tirés en bas par leurs vêtements, ils se prennent les pieds dans les algues. Il faut attendre qu'ils aient gonflé pour les voir un jour reparaître à la surface. Mais alors viennent les vagues, et comme ils sont devenus légers, ils vont vite. Ils sont comme des bouées qu'on aurait oublié d'ancrer. Un coup de vent du nord, les voilà en Savoie. Un coup de Vaudère, ils viennent sur nous. Pas vrai, Zumlaoff ?
Bien sûr, dit Zumlaoff, qui s'intéresse de nouveau à la conversation parce qu'on parle de choses qu'il connaît bien. Et il leur arrive des fois de se promener des jours et des jours tout près de la rive sans qu'on fasse attention à eux.
Sans Rochat aujourd'hui, on ne l'aurait pas eu.
À ce moment, on a entendu sur le chemin le klaxon de l'ambulance. Madame Larpin s'est levée, cherchant à voir par la fenêtre ce qui allait se passer.
« Tu ne verras rien, » dit Larpin.
L'ambulance passe devant l'établissement en sens inverse. Elle s'éloigne. Les deux hommes sont bien. Ils ont fini de manger. Il reste encore un peu de vin dans le litre. Larpin a rempli les verres. Zumlaoff lève le sien. « Santé. » Larpin a répondu « Santé. »